et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort de tout ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur la dépression postpartum avec Alison. Alors, très bonne écoute. C'est pendant les premiers mois de vie de ton deuxième que tu as eu le sentiment d'épuisement.
Ouais.
Ça s'est manifesté comment au quotidien ?
Au quotidien, j'ai commencé à m'énerver beaucoup pour rien parce que je ne dormais pas assez. J'étais trop stressée, je me sentais débordée. Ensuite, j'ai commencé à très mal dormir. Le peu que je dormais, j'ai commencé à très mal dormir. Je me réveillais beaucoup, j'avais du mal à me rendormir. J'ai commencé à m'énerver un peu sur tout le monde. Ma patience, elle s'est étiolée au fur et à mesure des semaines. Et petit à petit, en fait, j'ai plus eu envie de me lever. Je me sentais vraiment exténuée. Je n'avais plus rien envie de faire avec mes enfants. Quand mon conjoint rentrait, je lui refourguais les gosses, quoi. J'avais besoin de souffler. J'avais vraiment l'impression d'asphyxie. En plus, une fois de plus, c'était à la période du Covid et on n'avait pas d'opportunité de sortie, etc. Et du coup, c'est vrai que j'étais beaucoup enfermée chez moi avec les enfants et c'était compliqué. En sachant qu'on vivait à l'époque dans un deux pièces, donc
ouais, voilà, c'était pas facile.
Non, c'était pas facile. du coup. Donc, j'étais très, très fatiguée. J'avais de moins en moins envie d'être avec mes enfants. Et donc, au mois de novembre 2020, j'ai pris la décision parce que je ne supportais plus, en fait, mon fils aîné tellement j'étais fatiguée. Et c'était normal, il venait d'avoir un frère, donc il me poussait un peu dans mes retranchements. Il testait, tout simplement. Et puis, il essayait d'exister aussi après la naissance de son frère, ce qui est plutôt normal. Du coup, j'ai pris la décision, en fait, de le faire garder le matin dans un jardin d'enfants. Moi, qui avais voulu faire l'IEF pour lui éviter la violence de l'école, moi, j'étais devenue bien plus violente que ça, parce que je lui criais dessus tout le temps, parce que j'étais plus du tout patiente, parce que quand il réveillait son frère, ça me rendait dingue, enfin, voilà.
C'est courageux de dire ça, parce que je pense qu'il y a encore aussi énormément de tabous autour de dire « mes enfants me gonflent ». Ça, c'est quelque chose...
Ah ouais, non, mais moi, je le dis, hein, vraiment, il y a des fois où, voilà, on les vendrait bien sur le bon coin.
Mais ça, c'est pas encore...
C'est de moins en moins tabou, et je l'espère, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on se plaint de ses enfants, il faut tout de suite rajouter « je les aime, mais... » Enfin, voilà, il faut toujours le dire un petit peu avant, pour surtout qu'on se méprenne pas, quoi, que, ouais, ils sont chiants, mais on les aime quand même. Mais oui, mais en fait, comme n'importe qui, je veux dire, moi, mon mec, je l'aime, mais parfois, il est chiant, et ça m'empêche pas de l'aimer, et je me sens pour autant pas obligée de dire « je l'aime, mais là, il est chiant ». Il est chiant, ça arrive, moi aussi, je suis chiante parfois, et mes enfants, ils vont me trouver chiante, et ils auront raison, parce que je suis pas toujours cool. Ça reste un peu, parfois, inaudible, mais je pense quand même de moins en moins. Et donc, je l'ai fait garder, et ça a commencé à aller mieux. Néanmoins, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'il n'y allait pas assez longtemps, parce que je me suis beaucoup fatiguée à faire des allers-retours pour l'emmener, puisque j'y allais à pied. Et du coup, c'est vrai que ça a été très, très fatigant physiquement. En gros, une fois que le trajet était fait, j'avais chez moi, avec du coup mon deuxième, j'avais quelque chose comme 1h45 chez moi. Ouais. Donc, c'était pas...
Et puis, il y a tout le reste, il y a les lessives, il y a le ménage.
Bah, c'est ça. Mais en fait, je me posais pas. Hein. Objectivement, voilà, je me posais pas hein, pendant ce temps-là,
c'était,
en fait.
C'était une soupape pour respirer à peine plus.
C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je suis passée de 24/24 à ça, ça m'a quand même fait une bouffée d'oxygène.
Mais c'était pas suffisant.
Mais rapidement, ça n'a plus suffi, quoi.
Et alors, du coup, pour en venir à ta dépression, tu n'as pu consulter qu'en mars 2021, donc...
Avril
2021, donc près d'un an après la naissance de ton deuxième enfant.
C'est ça.
Et à ce moment-là, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a mis du temps quand même à aller mieux ?
Alors, le premier rendez-vous, je dirais que c'était pas de bol parce que c'était un jour où j'allais bien. C'était un jour où j'allais pas trop mal. Du coup, la psychiatre, elle a pas trop perçu la gravité de mon état. À l'époque, mon médecin généraliste m'avait quand même prescrit un anxiolytique parce que mes crises d'angoisse, elles étaient quand même toute la journée, du matin au soir. Elle m'avait dit de continuer ça, effectivement, que c'était bien. Et en fait, j'avais rendez-vous avec elle 15 jours plus tard et c'est là qu'elle a pris conscience de la gravité de mon état, où elle m'a expliqué elle-même, mais je comprends pas, en fait, il y a 15 jours, vous étiez absolument pas dans cet état-là. Je dis, si, mais en fait, c'était un bon jour. Donc, du coup, elle avait pas perçu. Je lui avais exprimé, moi, mes réticences par rapport aux médicaments parce que moi, j'en ai pris déjà des antidépresseurs. J'ai pris déjà des anxiolytiques, etc. Et c'était vrai que c'était quelque chose dont je préférais me passer, tout en sachant que si c'était nécessaire, bah c'était nécessaire et c'était pas grave. Donc là, elle m'a expliqué que mon état nécessitait vraiment une béquille médicamenteuse et que ça serait vraiment... Comme je lui exprimais vouloir que ça s'arrête rapidement, il n'y avait pas 36 solutions non plus. Donc voilà, elle m'a prescrit des antidépresseurs et elle a posé le diagnostic de dépression, effectivement, à ce moment-là, tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé par les médicaments. Donc aujourd'hui, je vais bien. Mais je suis encore sous traitement, d'ailleurs, qui a été augmenté 15 jours plus tard, parce que c'était pas suffisant.
Bon, et puis en plus de ça, vous avez eu la malchance que ton conjoint a eu le Covid, enfin toi aussi peut-être.
Au mois de mars, alors que j'étais déjà au fond du trou, hein, on a contracté le Covid. Mon conjoint s'est retrouvé hospitalisé pendant 10 jours en unité Covid. Moi, je me suis retrouvée isolée parce que j'avais aussi le Covid, avec mes enfants, donc toute seule, dans un état...
D'épuisement, en plus.
D'épuisement avancé, déjà avant, en sachant que le Covid n'est pas connu pour donner un regain d'énergie. Hein. Donc, j'étais extrêmement fatiguée psychologiquement, physiquement. En plus, bah, je ne dormais plus, quasiment, parce que je vivais dans la crainte qu'un médecin m'appelle en pleine nuit pour me dire que mon conjoint était en réanimation. Donc, voilà. Et puis, je passais ma journée à pleurer. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Et d'ailleurs, mes premières séances psy, on a beaucoup parlé de ça parce que ça a été un événement extrêmement traumatisant. Donc, on n'a même pas tout de suite parlé parentalité avec ma psychiatre. On a d'abord parlé du Covid et du traumatisme que ça avait généré chez moi. Se retrouver isolée avec deux enfants en bas âge, c'est compliqué et avoir peur de perdre son conjoint aussi. Donc.
Concernant la pression sociétale envers les mères, envers les femmes en général. Est-ce que tu as subi cette pression-là et est-ce que ça a influencé certains de tes choix que peut-être tu regrettes maintenant ?
En tout cas, dans mon entourage, on minimise beaucoup les difficultés, en fait. En tout cas, on les considère pas, disons. Je ouais. dirais qu'on voilà, on considère pas les difficultés des mamans parce que bah voilà, c'est comme ça quand on est une femme. Et puis il faut quand même préserver les papas. Puis en plus le mien il travaille, moi je suis à la maison, donc voilà, il faut prendre soin de lui, il faut le préserver. Sauf qu'en réalité, lui-même me le dit, hein, jamais il n'aurait fait ce que je fais, c'est-à-dire rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je trouve ça extrêmement difficile. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un conjoint qui le perçoit et qui en a conscience, mais c'est vrai que c'est encore pas la majorité des gens. Quoique, depuis les confinements, que les écoles étaient fermées, je pense quand même qu'il y en a qui ont revu leurs copies, mais c'est vrai que voilà, la femme au foyer... Elle doit tout faire, le mari va travailler et puis voilà, toi ton rôle c'est de faire le ménage et de t'occuper des enfants, alors qu'en réalité pour moi femme au foyer c'était m'occuper des enfants, point. Les tâches elles devaient être partagées, mais c'est vrai que voilà, j'ai ressenti voilà la pression de que rien ne dépasse, qu'il fallait taire les difficultés. Je me souviens, enfin quand mon fils aîné il était bébé, quand des gens venaient chez moi, je me maquillais et tout alors que j'avais pas dormi, que j'étais crevée. Toujours ce besoin de faire bonne impression, de montrer que je gérais, alors qu'en fait je me sentais complètement dépassée, que si personne venait m'aider, bah je pouvais même pas me doucher, enfin je devais attendre que mon conjoint y rentre pour me doucher. Si ma mère et ma sœur me ramenaient pas à manger, bah je mangeais pas, ou alors je manger des gâteaux en attendant le soir. Enfin, vraiment, j'étais dépassée. Et pourtant, j'avais pas d'énergie, mais le peu
t'avais
d'énergie
besoin
que j'avais,
de donner cette impression
j'avais
que
besoin, alors que ça allait très très mal, quoi. C'était,
je pense que ça, c'est très propre aussi. C'est aussi lié au fait que la mère doit être forte, elle doit faire preuve de courage, elle doit donner le change, elle doit être présente, elle doit être maternelle, elle doit être là, mais pas trop, elle doit être... prévenante mais pas trop présente. Enfin, il y a vraiment
il y a beaucoup d'injonctions contradictoires,
ouais, voilà.
En
beaucoup
fait
d'injonctions.
Et on sait pas où se positionner en fait.
Ouais.
En fait, aujourd'hui, je après ma modeste expérience de maman de deux enfants, j'ai compris que je ferais jamais bien aux yeux de tout le monde. Donc j'ai accepté que je ferais forcément mal des choses, peut-être mieux certaines autres, mais c'est vrai que je ferais jamais l'unanimité, et maintenant je m'en fous. Mais pendant très longtemps, c'est vrai que ça m'a pesé. Honnêtement, la majorité des parents veulent le mieux pour leurs enfants, et le mieux, forcément, on se dit que c'est faire plein d'activités, que c'est... faire tout maison, manger bio, voilà, les éveiller à plein de choses. On veut être à fond, en fait. Moi, j'ai voulu être à fond partout, tout le temps. Je sais pas, ça devient... En plus, quand on est mère au foyer, il y a une espèce de pression, parce que déjà, si tu t'arrêtes de travailler pour t'occuper de tes enfants, alors il faut, tu vois,
il faut tout réussir. Ouais.
Il faut tout réussir, parce que la maman qui va bosser, on sera plus indulgente avec elle. Elle travaille en plus. On comprend qu'elle fasse pas d'activité. On va comprendre que sa baraque, ça soit un petit peu... un petit peu le chantier, voilà. Par contre, quand t'es mère au foyer, t'as une espèce de pression où ta baraque, il faut qu'elle soit nickel, il faut que tu proposes 10 000 activités par jour à ton gamin, voilà. Et moi, vraiment, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est jouer avec les enfants. Je déteste ça, j'ai horreur de ça, ça m'ennuie profondément, vraiment, j'ai horreur de ça.
Je suis contente de te l'entendre dire, parce que je crois qu'on l'a jamais entendu, ça, ou on l'entend pas assez.
Écoutez bien, vraiment, je déteste jouer avec mes enfants. Je m'ennuie profondément. Je n'ai aucun talent artistique. Je sais rien faire de mes mains, à part faire des gâteaux. Donc, j'aime bien faire des gâteaux avec mon fils. J'aime bien faire des gâteaux de temps en temps. Hein. Mais sinon, c'est vrai que je ne m'amuse pas avec les enfants. Je ne m'amuse pas avec eux.
Et tu as le droit de le dire. Tu as carrément
le droit. J'ai le droit. Et en plus, je ne suis pas la seule et je le sais. Donc, voilà. Peut-être que j'apprécierai plus tard de jouer aux jeux vidéo avec eux. Mais c'est vrai que, ou faire des puzzles, ça j'aime bien faire des puzzles avec eux.
C'est vrai.
L'influenceuse puzzle que je suis, forcément, essaye de, voilà, de les intéresser. Mais c'est vrai que je vais être la maman qui met de la musique, qui danse avec eux, qui raconte des histoires. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que jouer, ça m'embête. Ça m'embête vraiment et j'y prends pas de plaisir. Alors,
mais ce qui est bien, c'est que tu l'assumes et que tu te sens pas coupable désormais de ça, quoi.
Pendant très longtemps, je me suis forcée à essayer de trouver des activités, etc. Et puis, c'est aussi très frustrant, parce que, surtout quand t'aimes pas ça. Quand t'aimes pas ça et que tu te casses la tête, tu te creuses la tête à chercher des activités qu'on pourrait faire, des trucs qui pourraient être intéressants pour eux, et qu'en fait, tu mets une demi-heure à préparer le truc, que derrière, ton enfant, il va y jouer deux minutes et ça le saoule, ou parfois, il comprend même pas où tu veux en venir, ça fout les boules, en fait. C'est dommage, parce que finalement, ton enfant, il a besoin que tu sois là, à proximité. Mais fondamentalement, l'enfant, il n'a pas besoin que tu joues avec lui. Il joue très bien tout seul.
C'est clair.
L'enfant, il joue très bien tout seul. Après, quand ils grandissent, etc., moi, je sais que mon fils aîné, maintenant, il a l'âge de jouer un peu à des jeux de société de son âge, etc. Là, oui, on peut jouer ensemble. Là, ça m'embête moins. Mais construire des trucs, faire des bruits d'animaux, c'est pas mon truc. Voilà. C'est pas mon truc. Je fais plein d'autres choses, mais ça, je fais pas. Et j'assume. Voilà.
J'ai une question. Parlons des hommes un petit peu. Est-ce que tu as ressenti ou est-ce que tu ressens une forme d'injustice vis-à-vis des hommes et de leur paternité?
Complètement. J'ai commencé à ressentir cette injustice quand on a eu notre premier enfant, mais de manière beaucoup, 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 beaucoup plus importante au deuxième. Pour plein de raisons. Je pense que déjà, quand on a un enfant, en tant que femme, on peut réussir à tout gérer, à continuer de tout gérer, en s'épuisant, hein, bien sûr. Mais en n'ayant qu'un enfant, avec deux, c'est plus possible. Et là, il faut vraiment que le conjoint, il se bouge les fesses, parce que sinon, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui m'ont énervée, en fait. C'est que je me suis rendu compte que plus t'avais d'enfants, déjà, plus t'étais coincée en tant que femme, notamment dans le monde du travail. Parce que moi, pour le coup, comme j'avais pas de boulot quand je suis tombée enceinte, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon employeur de l'époque, parce qu'il était particulièrement misogyne et en plus n'aimait pas trop les femmes enceintes. Donc moi qui étais en parcours de PMA, c'était compliqué. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle. Du coup, ben, il fallait que je retrouve un boulot. Mais si tu veux retrouver du boulot, il te faut une place en crèche ou chez une nourrice. Sauf que la nourrice, pour la payer, ben, il faut de l'argent. Tu te retrouves rapidement en difficulté. Moi, par exemple, c'est ce que je disais à mon conjoint il y a quelques mois, c'est moi, j'ai envie de retravailler, mais si nos enfants sont malades, c'est moi qui vais devoir y aller. C'est moi qui vais devoir continuer à assurer le fait de les déposer le matin, de les chercher le soir, parce que mon conjoint, il travaille à une heure d'ici. À l'heure où il part et à l'heure où il rentre, clairement, c'est pas possible. Donc ça va être encore pour ma pomme. Le mercredi, c'est pareil. C'est moi qui dois me demander un 80% éventuellement pour avoir le mercredi. Et en fait, c'est contrainte sur contrainte, ce qui fait que sur le plan financier, on est obligé de favoriser le plus gros salaire, ce qui est logique, mais les plus gros salaires, c'est toujours les hommes qui les ont. Et si tu veux, j'ai fait un peu une croix sur ma carrière professionnelle parce que je sais que je serai toujours désavantagée en fait. Et sur le plan professionnel, ça a été très dur ça, par contre. De me rendre compte à quel point en fait c'était injuste, à quel point le fait d'être maman aujourd'hui, ça allait me rendre la tâche plus difficile pour retrouver un emploi. Et voilà, c'est vrai que ça a été compliqué. Et aussi que mon conjoint mette si longtemps à se rendre compte qu'il fallait qu'il se bouge, quoi. J'ai dû tellement lui expliquer de différentes manières à quel point nos situations, elles étaient inégales, en fait, et qu'il fallait que ça change. Parce que si pour notre premier enfant, j'ai réussi à prendre sur moi, c'est vrai que vraiment, avec le deuxième, j'ai plus réussi parce que j'étais en train de me tuer, en fait, hein, physiquement, ouais, psychologiquement, à tout porter. C'était trop, trop difficile, quoi. Maintenant qu'il a pris conscience de lui aussi, de beaucoup de choses, maintenant, il fait plus sa part. Il fait pas 50% de ce que je fais, ça, c'est sûr. Mais il fait maintenant tout ce qu'il peut, il le fait. Voilà. Ça a été un combat que j'ai dû mener.
Oui.
C'est ça qui est triste, c'est que c'est à nous en plus de mener ce combat alors que...
Il y a encore énormément d'injustices hommes-femmes, même si on tend à dire que la parole se libère, etc. C'est sur le papier, il y a encore énormément d'écarts, même en parlant du salaire, mais aussi en parlant de tout ce qui est des tâches quotidiennes, etc. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules des femmes et pas sur les épaules des hommes, et c'est encore très intégré dans la société.
Oui, c'est normal, tout le monde va te dire « Ah, mais c'est un homme, c'est normal. » C'est toujours cette excuse-là, en fait. C'est un homme, nous, on est des femmes. « Oh, il aime pas donner le bain. » Oui, mais bon, c'est un homme. Oui, mais bon, moi, j'aime pas non plus donner le bain, mais bon, les enfants, ça se lave. Voilà. Il y a un moment donné, là où eux se posent la question de savoir s'ils ont envie, nous, on le fait, parce que ça doit être fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et c'est ça qui est un petit peu rageant parfois, c'est qu'il se repose tellement sur nous, sur...
Il y a le côté aussi maintenant où quand tu vois un homme qui fait les choses, il est tout de suite acclamé comme si c'était incroyable. Oh là
là. Oui, ça c'est pénible aussi.
Ça c'est le contre-coup un peu négatif, c'est que du coup, on va féliciter un homme en disant « Ah là là, mais c'est génial, il fait tout ça ». Et on souligne pas la même chose chez toutes les femmes en fait.
Non, par contre, quand t'es une femme, on va bien pointer les trucs que tu fais pas, par contre.
C'est le risque, ouais.
Ça, c'est compliqué aussi, mais moi, avec ma propre mère, hein, plusieurs fois, elle me dit « Oh, mais t'as de la chance, il fait quand même beaucoup. » Bah non, en fait.
Bah non, c'est pas de la chance.
C'est pas de la chance. C'est normal, en fait. C'est normal. Ce qui est pas normal, c'est toi, que tu as accepté pendant des décennies de pas recevoir ce que t'aurais dû recevoir, à savoir un partenaire qui fait sa part. Et mon conjoint, on rigolait beaucoup au début parce qu'il me disait « Ah, t'as vu, j'ai fait la vaisselle et tout. » Mais ça, maintenant, il me le dit plus parce que à chaque fois, je dis « Ouais, bah, tu veux ta médaille, mais franchement, fabrique-la toi-même. » Parce que moi, si je viens te dire tout ce que je fais à chaque fois que je le fais, ouvre une usine de médailles parce que c'est pas une qui va me falloir. soir. Parce que vraiment, et en fait, plusieurs fois, c'est vrai que c'est des choses que, voilà, plusieurs fois, je vais rabâcher un petit peu, oui, mais c'est normal. Oui. Et voilà, et puis maintenant, bah, il me demande plus rien. Il me demande plus rien. Par contre, c'est vrai que moi, maintenant, quand je vois qu'il a fait un truc, je le remarque aussi, je lui dis. Je dis, ah bah, j'ai vu que t'avais fait ça, c'est cool et tout. Il faut pas non plus rendre ça invisible sous prétexte que c'est normal. Oui. Moi, je sais que mon conjoint, il m'a toujours remercié à chaque fois que je faisais le repas. C'est un truc qu'il fait depuis qu'on est ensemble. Merci d'avoir préparé le repas. C'est quelque chose qu'il a toujours fait. Et voilà, moi, s'il fait quelque chose, bah, je le remercie aussi parce qu'en fait, on travaille ensemble, quoi, pour notre foyer. Donc, l'idée, c'est pas de lui refourguer une médaille, mais c'est de dire, ben voilà, merci de faire ta part et de, même si c'est normal, bah de, voilà, bah t'as, je sais pas, t'as donné le bain aux enfants pendant que je faisais autre chose, ah bah c'est cool, voilà, au moins on est avancé pour plus tard, enfin voilà, même si on est loin du 50-50, et ça ne peut pas être du 50-50 pour la bonne et simple raison qu'il quand même il travaille toute la journée et que bah, moi forcément à la maison toute la journée je peux faire plus de choses, et bien aujourd'hui on a trouvé un équilibre, je pense, qui nous convient à tous les deux. Je pense que ce qui compte, c'est un truc qui te convient à toi, à ton couple, aux horaires de travail de l'un et de l'autre, aux possibilités d'aller chercher ou non les enfants de l'un et de l'autre, enfin voilà. Mais après, clairement, pour moi, en tant que femme, quand t'as des enfants, t'es perdant. C'est ma vision des choses aujourd'hui, mais je regrette pas d'avoir eu des enfants, mais par contre, voilà, je pense que j'avais pas bien évalué à quel point je serais désavantagée d'en avoir, voilà.
Mais alors du coup, en parlant des réseaux sociaux, tu as lancé un compte Instagram dédié au burn-out maternel, qui s'appelle, il me semble, Club Med des Daronnes.
Club Meds, oui. Le Club Meds des Daronnes. Oui,
que
parce
souhaites-tu que... souhaites-tu dénoncer et qu'est-ce que tu souhaites partager sur ce compte?
Alors, c'est un compte où je souhaite partager des témoignages, en fait, de mamans qui sont en burn-out, en dépression ou qui en sont sorties. Des mamans qui ont recours à une thérapie, à une aide médicamenteuse pour supporter leur maternité, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Et l'idée, c'est de, voilà, de témoigner, de dire que c'est pas grave. Ça fait pas de nous des personnes faibles ou de mauvaises mamans et qu'on peut être une très bonne maman en prenant des médicaments. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est pas la vie de tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de lever les tabous là-dessus, de pas avoir honte. C'est vraiment mon cheval de bataille, parce qu'il y a encore trop de gens qui ont honte de prendre des antidépresseurs, il y a encore trop de gens qui ont honte de prendre des anxiolytiques ou de consulter un psy, hein, tout simplement, hein, rien que ça. Et ça, je veux vraiment que ça change, parce que le fait d'avoir honte, ça peut retarder une prise en charge. Ça peut empêcher une femme d'aller consulter parce qu'elle n'a pas envie d'avoir honte, parce que son entourage dit que ça va passer, que c'est pas grave, que les psys c'est pour les fous. Et en fait, la souffrance des mères, elle se répercute à plusieurs niveaux. Et je pense qu'il faut vraiment prendre plus soin des mamans sur le plan de la santé mentale, parce que les enfants, ils sont impactés aussi. Le couple, enfin, c'est un tout.
Je pense qu'au travers des témoignages que tu reçois aussi, tu te rends compte que tu n'es pas seule et que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Quoi.
Et c'est le but aussi, c'est que les mamans, elles se sentent moins seules. Parce que c'est un fort sentiment en général quand on fait une dépression, ce sentiment d'être seule. En général, on a une mésestime de soi. Il y a plein de sentiments qui sont extrêmement négatifs et aussi du soutien parce que on est mieux soutenu par des gens qui vivent la même chose que nous, en fait. C'est pas de la mauvaise volonté de la part des autres, mais c'est juste que quand vous avez pas vécu une situation, c'est difficile parfois d'apporter les bons mots. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Quand on sait que une maman dans une situation similaire, bah s'en est sortie, ça peut aussi redonner un peu confiance en l'avenir qu'on voit souvent bien sombre. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ce compte, parce que c'est pour du soutien entre mamans, c'est pour qu'on ait plus honte de se soigner.
Et qu'on ait plus honte aussi de dire quelles sont nos limites et surtout contrebalancer avec les réseaux sociaux qui sont très parentalité bienveillante. Ça permet de rééquilibrer un peu la chose.
Bah, disons que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être dans la parentalité bienveillante et être en dépression. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible et on peut aussi pratiquer la parentalité bienveillante et être en forme sur le plan de la santé mentale. C'est juste que il faut arrêter de toujours dire tout est beau, tout est rose, mais après, ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Mais je crois quand même que ça s'arrange et que
J'ai l'impression, en tout cas, qu'on tend vers des comptes Instagram qui sont plus pieds sur terre.
Voilà.
Et qui n'essaient pas de te vendre des solutions clés en main avec des bouquins et des formations. Comment devenir parent. Bref, ça, c'est encore.
Voilà, c'est ça. Je pense vraiment que c'est en train de s'améliorer et que les discours, ils se nuancent. Tout ça, c'est très, 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 très bien pour toutes les mamans à venir qui n'auront peut-être pas cette pression sur les épaules d'être parfaite, de faire tout comme il faut et en plus d'être heureuse en le faisant, parce qu'on peut aussi faire tout comme il faut et pas être heureuse en le faisant. Et c'est le cas quand on se force à faire notamment des activités, des jeux qu'on n'a pas envie de faire.
C'est une forme de violence envers soi. Hein.
Oui, bien sûr, parce qu'on s'inflige des trucs, parce que, je sais pas, la maman par exemple qui déteste cuisiner, qui va se forcer à faire des petits pots, Ok, elle veut le meilleur pour son bébé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas dire que dans le commerce, on trouve quand même aujourd'hui des choses plutôt saines, même si c'est du tout fait. Donc je pense que, est-ce que ça vaut le coup de voilà, se pourrir un week-end à faire des petits pots alors qu'on déteste ça, plutôt que de passer du temps de qualité avec son enfant? Moi, je pense qu'il vaut mieux aller acheter des petits pots tout faits. Et je pense que voilà, c'est comme ça pour tout. Je pense que c'est comme ça pour tout, pour les jeux, pour les emmener à faire des activités, voilà. Il y a des parents qui s'éclatent à emmener leurs enfants au foot, à la danse, à la gym, au bébé nageur. Il y a des parents que ça emmerde. Eh ben, c'est pas grave. Les enfants, ils feront autre chose. Ouais. Ça va pas en faire des enfants malheureux et tout ira bien pour eux quand même. Les enfants, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on soit là, ils ont besoin de, voilà, d'être sûr qu'on est là pour eux s'ils ont un souci, s'ils ont besoin de confier quelque chose, de sécurité. Ils ont pas besoin d'un parent qui va être là partout, à tout faire, tout le temps, du mieux. On est faillibles tous, on a des intérêts différents tous, c'est pas grave et ça n'empêche pas d'être de bons parents et d'avoir des enfants équilibrés, quoi.
C'est quand même important de garder en tête que les futurs parents, de leur dire, vous allez voir, vous allez vous prendre quand même un grand tsunami, et ça, je pense que c'est important de prévenir, quoi.
C'est ça, mais après, j'avais fait un post sur le sujet, et c'est une question vraiment que je continue de me poser et à laquelle j'ai toujours pas trouvé de réponse, c'est est-ce qu'il faut prévenir les parents? Je sais pas si quand t'es enceinte, en tout cas pour ma part, je suis pas sûre que tu sois capable d'entendre que ça va être super dur, que tu vas pas dormir. Tu vois, ces trucs-là, tu vas les entendre, mais c'est tellement abstrait.
Puis c'est surtout que ça dépend.
Et puis ça dépend, des enfants, ça dépend des parents. Moi, par exemple, j'étais une marmotte. Donc forcément, la claque que je me suis prise dans la tronche, elle a été violente. Parce que moi, avant d'avoir des enfants, si je dormais pas 9 heures, je considérais que j'avais fait une petite nuit, quoi. C'est sûr qu'après, tu dors en coupure, tu te réveilles toutes les 1h30, 2h. Bon, bah, c'est un peu raide, quoi. Et puis en plus, moi, j'avais un enfant qui dormait pas. Mon deuxième, il faisait des siestes la journée, ce qui n'était pas le cas de mon premier. Enfin voilà, j'avais une expérience différente. Je sais pas. En tant que femme enceinte, si j'aurais pu entendre tout ce que moi j'ai dit, je suis pas sûre. Je sais pas. Je pense que ça dépend, et je pense aussi que c'est difficile de pas calquer ton expérience aussi sur les autres. En tout cas, dire globalement que c'est possible que tout soit pas exactement comme tu l'as imaginé, que peut-être ça sera pas
forcément tout rose et tout merveilleux.
Voilà. Moi, ce qui m'a choquée, c'est que quand on m'a mis mon fils aîné sur la poitrine quand il est né, j'ai pas ressenti, tu vois, le fameux, je sais pas, déferlement d'amour.
Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois sur le fait que ça soit pas forcément le coup de foudre tout de suite.
Bah,
en fait, que ça puisse être déstabilisant pour la maman, parce qu'elle se dit, ben mince, est-ce que j'ai raté un truc?
Ouais. Moi, ça, je me suis dit, merde, mais en fait, je le connais pas. Parce que je l'ai porté, mais je le connais pas. Je ne connais pas son caractère. En fait, c'est un inconnu. C'est-à-dire que c'est un inconnu que j'ai porté, mais ça reste un inconnu. On se connaît pas, on doit s'apprivoiser. Moi, c'est venu au fil des jours. Et après, ça a été très, très fort. Ça, c'est sûr. Non, parce que je me souviens même que les premiers jours en unité kangourou, on me le prenait la nuit, on me forçait. Et en fait, au fur et à mesure que les jours passaient, c'était de plus en plus compliqué pour moi de le laisser. J'ai fini par refuser complètement, parce que vraiment, je me sentais pas bien qu'on me le prenne. Par contre, pour mon deuxième enfant, ça a été aussi différent. Donc, en plus, ça dépend même des enfants. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut peut-être dire que voilà, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine, que ça peut être très, très difficile, que la question du couple, moi, je pense qu'il faut quand même un peu prévenir les gens que ça fight au début, quoi. T'es fatigué, t'es stressé, c'est beaucoup de responsabilités qui te tombent sur la tronche d'un coup. En plus, en tant que femme, toi, t'as vécu aussi un raz-de-marée physique. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que tu n'arrêtes pas de t'engueuler pour tout et n'importe quoi. Je pense que ça aussi, il faudrait un petit peu en parler davantage, ouais. Quoi.
Depuis que tu as eu le diagnostic de la dépression, qu'est-ce que tu essayes de faire pour aller mieux? Ou au contraire, qu'est-ce que tu as arrêté de faire pour en finir avec tout ce mal-être?
Alors pour aller mieux, je consulte deux fois par mois ma psychiatre. Je continue de prendre mes antidépresseurs. Je prends du temps pour moi, puisque là maintenant, mon fils aîné va à l'école et mon deuxième enfant va à la crèche. Donc je commence à récupérer du temps pour moi. Donc je me retape physiquement et psychologiquement. Ce que je ne fais plus, je ne m'impose plus des trucs que je n'ai pas envie, en fait. Je me fais confiance un peu plus. Je ne vais plus chercher de solution sur les réseaux sociaux pour élever mes enfants. Je fais confiance à mon bon sens. Ça ne m'empêche pas encore d'en discuter avec des gens, etc. Parce que c'est toujours très, très intéressant aussi de confronter des points de vue. Je pense que ça permet d'avancer. Mais voilà, je n'essaye plus de ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, je continue à élever mes enfants avec toute la bienveillance dont je sais faire preuve. Je me reconsidère comme une personne à part entière et plus seulement comme une maman.
Ça, c'est important.
Ça, c'est quelque chose qui m'a énervé beaucoup quand j'ai eu mon fils aîné. On me disait toujours, N'oublie pas que tu es aussi une femme. Et ça m'énervait profondément parce que moi, je me sentais mère à 2000%, quoi. Mmh. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on dissocie tant les deux ? Et en fait, vraiment, oui, moi, je me suis oubliée en tant que personne, en fait. C'est même pas une question d'être une femme. C'est vraiment, en tant que personne, moi, je me suis complètement oubliée. Et là, maintenant, c'est quelque chose que je fais plus. Voilà, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale. Et ça passe aussi par, avoir du temps seul, faire des choses que j'aime, participer à des projets comme ce podcast qui me fait plaisir. Voilà, ça passe par ça. Voilà, plus les faire tout le temps passer avant moi, ce que je faisais systématiquement. Alors, c'est encore le cas pour trois quarts des trucs. Mais maintenant, pour les choses secondaires, j'estime que j'existe et que j'ai le droit aussi de prendre du temps pour moi, de faire des activités seule, sans pour autant être une mère monstrueuse, égoïste, voilà.
Mais du coup, Alison, qui a été enfant puis femme, quel enfant, adolescente étais-tu et quelle femme est-ce que tu essayes de redevenir ou de devenir ?
Alors, enfant, j'étais une enfant très, 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 très anxieuse. J'étais très fusionnelle avec ma maman aussi. Alors, il faut savoir que j'avais un père qui était violent et ma maman a divorcé quand j'avais 7 ans. Donc, j'étais très, très accrochée à ma maman, du coup, qui était ma figure d'attachement principale. Ado, et c'est à ce moment de ma vie que j'ai côtoyé la dépression, puisque j'ai fait une dépression quand j'avais 14 ans. J'ai été hospitalisée 4 fois pour essayer d'aller mieux. Voilà, l'adolescence, l'enfance, ce sont pas du tout des périodes que je regrette. Je suis pas nostalgique de ce temps-là. Je préfère ma vie d'adulte. Et maintenant, j'essaye de redevenir moi, Alison, mère certes, mais aussi
femme.
Femme à part entière. J'essaie de plus vivre au travers d'eux parce que je pense que c'était leur mettre une pression énorme aussi sur les épaules. Et je pense que c'est important que j'ai une vie en dehors d'eux. Et c'est ce que je m'emploie à faire maintenant. Voilà, de plus me perdre en route, quoi.
Ouais, je vois. Écoute, on va aller vers la fin de ce podcast. Sois sage et parle fort. Qu'est-ce que cette phrase t'évoque ?
Elle m'évoque la sortie de l'enfance parce qu'on te dit tout le temps d'être sage et l'entrée dans le féminisme parce que maintenant, je parle fort.
J'aime beaucoup ta conclusion. ça me touche beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ?
Merci à toi, Marie.
Merci à toi aussi, Alison.
Merci pour tout le travail que tu fais.
Merci à toi aussi, parce que tu en fais quand même sur ton compte Instagram, le Club Med des Daronnes, parce que tu dénonces quand même, tu oses parler fort de sujets qui sont souvent tabous, donc je trouve ça important de le mettre en valeur. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent d'aller te suivre sur Instagram pour un petit peu découvrir ce que tu fais et ce que tu partages. Je suis sûre que ça pourra venir en aide.
Je l'espère.
Écoute, je te remercie infiniment d'être venue sur le podcast. Et pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que cet enregistrement vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez pu écouter un témoignage inspirant. Et sur ces mots, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort, beaucoup.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.